On poursuit l'histoire de l'Église au Xe siècle. Et après cette période particulièrement trouble que l'on avait appelée la pornocratie, cette période où des prostituées avaient pris en main le gouvernement de l'Église, avec des papes complètement corrompus, nous arrivons maintenant à la réaction, une réaction qui a pour auteur Othon Ier, un homme énergique qui va entreprendre deux grands objectifs. Premièrement, restaurer le Saint-Empire romain germanique qui était totalement morcelé, qui avait éclaté. Et puis deuxièmement, réformer l'Église. Cette réforme de l'Église consiste tout d'abord à déposer le pape Jean XII qui l'avait couronné, mais qui s'était en même temps révolté contre lui, et puis à veiller à ce que la papauté soit entre les mains d'hommes tout de même qui avaient un minimum de moralité. Othon cherche aussi à prendre le contrôle direct de l'Église, et pour ce faire, il distribue des fiefs aux évêques, qui dès lors deviennent des seigneurs, qui entrent dans le système féodal, et qui fait qu'ils prêtent serment à l'empereur. Si bien que les évêques sont liés d'une part au pape, de par la structure hiérarchique de l'Église catholique, mais en même temps ils sont liés à l'empereur par le serment de vassalage qu'ils ont prêté. Et l'empereur espère bien ainsi avoir mainmise sur les évêques, par conséquent sur la structure de l'Église, avant le pape. Et nous avons là les germes d'un conflit qui, dans les décennies suivantes, va dégénérer pour aboutir à ce qui sera la marque de la deuxième partie du Moyen-Âge, le conflit entre les papes et les empereurs, pour savoir qui va contrôler l'un ou l'autre, n'est-ce pas, à la fois l'Église et l'État. Le problème, c'est le contrôle de l'Église et de l'État. Qui a la primauté? Est-ce l'empereur ou est-ce le pape? Et ce conflit, donc, va empoisonner toute la fin du Moyen-Âge. Nous aurons l'occasion d'y revenir. À Othon Ier succède Othon II, qui règne de 973 à 983. Un homme qui donc va avoir un règne relativement court, il mourra prématurément, après 10 ans de règne. De son temps, il y a dans l'Empire des troubles et des rébellions qui se manifestent, et qui en particulier gagnent la ville de Rome. La ville de Rome, qui avait été habituée jusqu'ici à la Dolce Vita, et qui voit d'un assez mauvais œil les ingérences de l'empereur dans un domaine qui, en principe, lui était le problème réservé de l'aristocratie romaine. Et cette aristocratie romaine tente donc de soulever la ville contre le pape, qui est en quelque sorte la créature de l'empereur, et qui se nomme à cette époque-là Benoît VII. Et Othon est obligé d'intervenir pour protéger le pape des troubles et des ambitions des grands de Rome. Et c'est à cette tâche-là qu'il meurt en 983. Son fils a 3 ans au moment où il meurt, si bien qu'il n'est pas en âge de régner, et il va y avoir une régence de 11 ans qui va faire la liaison entre le moment où Othon de mort meurt et le moment où son fils est en âge de régner directement. Il est évident que cette période de régence est une période de faiblesse pour l'Empire, le Saint-Empire romain germanique ressuscité, mais qui est encore extrêmement faible. Et notamment à la périphérie de l'Empire, le contrôle par le pouvoir central est extrêmement faible, d'autant que la structure féodale n'est pas de nature justement à assurer à l'Empire une cohérence totale. La féodalité a surtout pour résultat de provoquer le morcellement de l'Empire. Et c'est ainsi que, en France, justement, la France qui a du mal à reconnaître l'autorité d'un prince allemand, il y a un problème de culture, il y a un problème de langue entre les deux parties de l'empire défunt de Charlemagne. Il y a aussi un problème de rivalité, car on estime en effet de l'autre côté du Rhin que la couronne impériale, après tout, pourrait aussi bien revenir à un Français. Et profitant de cette période de régence, de l'affaiblissement du pouvoir allemand, la noblesse de France élit en 987 à Compiègne le comte de Paris, qui se nomme Hugues Capet, comme roi de France. Et ce faisant, la France fait sécession par rapport à l'Empire. Et c'est le début de la dynastie capétienne qui durera jusqu'à la Révolution, en fin de compte, avec des fortunes diverses. Pendant ce temps, Jean XIV a succédé à Benoît VII. Après avoir écarté un autre prétendant au trône papal qui se nomme Boniface, lequel Boniface, pour sauver sa vie, s'est enfui à Constantinople, donc chez les Byzantins, où il attend aussi son heure. Son heure sonne lorsque précisément la régence est occupée à des troubles divers, que la sécession capétienne est intervenue. Et Boniface estime que le moment est favorable pour tenter un coup de force. Il revient de Constantinople, tue le pape Jean XIV et prend sa place. Voilà, une manière très expéditive de prévoir la succession pascale, en même temps que, comme on le voit, très évangélique. Personne n'intervient pour mettre fin à ce scandale. Et il faut attendre la majorité du fils d'Othon II, qui se nomme Othon III, pour que les choses changent. Othon III va régner donc théoriquement à partir de 983, et il mourra au début du XIe siècle, c'est-à-dire en 1002. Othon III est un homme instruit qui est un homme qui est aussi rempli d'ambition. Sa mère est une Byzantine et ça donne à Othon des idées. Il ambitionne, ni plus ni moins, que de rassembler sous son sceptre à la fois l'Empire d'Occident, mais également l'Empire d'Orient. Et pour pouvoir manifester ses ambitions, il vient s'établir à Rome. Il transfère sa capitale, la capitale de l'Empire, à Rome. C'est tout un symbole. D'abord, c'est le symbole que l'Empire romain d'Occident, qui avait éclaté sous les coups des invasions barbares, est véritablement ressuscité. Mais Rome était aussi la capitale du monde romain tout entier, y compris de la partie orientale de l'Empire, à l'époque de Constantin. Et Othon ainsi entend renouer avec la tradition de l'Empire romain indivis, tel qu'il était sorti notamment avec Constantin et les premiers empereurs de Byzance. Il est évident que les Romains ne sont pas enchantés de ce débarquement en force des Allemands dans leur capitale, dans leur ville, le pape non plus. Qu'à cela ne tienne, Othon III dépose le pape, il le remplace, ni plus ni moins, par son cousin. Son cousin qui est un Allemand, qui se nomme Bruno, qui a 23 ans, c'est un petit peu jeune pour être un pape, on l'admettra. et qui se fait nommer pape sous le nom de Grégoire V. C'est le premier pape allemand qui règne sur le trône pontifical. Mais hélas, cette nomination de Bruno, alias Grégoire V, n'est pas du goût de tout le monde. En effet, un certain Crescensus se révolte contre Bruno et Grégoire est chassé de Rome. Il parvient à sauver sa vie à grand-peine en se réfugiant dans la ville de Paphie. En 999, il finira lui aussi assassiné. C'est pas toujours de tout repos d'être pape jusqu'à aujourd'hui. Des précédents qui ont des, comment dirais-je, des harmoniques dans un passé qui n'est pas si lointain. Et un certain Sébaste II lui succède. Il régnera jusqu'à la mort d'Othon de 999 à 103, c'est-à-dire qu'il survivra d'un an à Othon. C'est un homme qui a une grande érudition et qui en particulier est un esprit scientifique. Il est très curieux, il s'intéresse à tout ce qui est scientifique. Il a un peu moins de curiosité pour les choses spirituelles, ce qui fait que, d'abord, comme il est arrivé en quelque sorte dans les bagages des Allemands, il est plutôt méprisé. Et puis, comme on n'a pas beaucoup d'envergure spirituelle, c'est pareil. Son principal titre de gloire, si j'ose dire, c'est que il va garder les liens étroits avec Othon. Et en 955, Othon triomphe des Hongrois. Les Hongrois sont un peuple qui est venu d'Europe centrale, peuple magyar, et qui n'était pas évidemment christianisé, c'était un peuple païen, qui menaçait les régions orientales de l'Empire. Othon marche contre les Hongrois, il leur inflige une défaite donc à Lechfeld, et les Hongrois sont contenus. Bien entendu, ils s'établissent dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie, et le pape estime que ces nouveaux émigrés arrivants doivent être évangélisés, convertis. Et ainsi, une mission est établie parmi les Hongrois. Le but de la mission, la technique d'évangélisation, si j'ose dire, depuis l'époque des Irlandais, c'était d'essayer d'amener les chefs, les rois, les chefs de tribu, l'aristocratie, les classes dirigeantes du peuple que l'on veut évangéliser à se convertir. À partir du moment où les classes dirigeantes étaient converties au christianisme, automatiquement tout le monde suivait. Selon le principe qui restera en vigueur dans l'Europe jusqu'à la Révolution française pratiquement, cuius regio, cuius religio, la religion du prince est aussi la religion du peuple. Alors, ici, évidemment, on s'efforce de toucher le roi. Le roi qui se nomme Étienne et qui, effectivement, après quelques années, comprenant que le paganisme a fait son temps et que maintenant le christianisme est une religion qui a le vent en poupe, se convertit avec tout son peuple. Et le pape a donc la joie, l'honneur, le privilège, tout ce qu'on veut, de baptiser le nouveau roi des Magyars, Étienne, n'est-ce pas, qui sera d'ailleurs canonisé et qui ainsi implique une nouvelle conquête du christianisme en Europe. Le pape va aussi entreprendre des missions en Pologne. La Pologne, qui est un pays neuf, un pays qui se trouve aussi aux confins orientaux de l'Empire, au contact direct des Slaves, qui restent eux des peuples païens. Et des missionnaires sont envoyés en Pologne dans la foulée des succès qui se sont produits chez les Hongrois. Et ainsi, les premières peuplades slaves se convertissent, non seulement parce qu'on envoie des missionnaires spécialement pour les évangéliser, mais également parce que des Allemands, des Saxons vont peupler ce territoire neuf, ce territoire nouveau qu'est la Pologne, et ils amènent avec eux le christianisme parmi les populations qui jusqu'alors étaient restées païennes. Et c'est ainsi qu'en 949 est fondée à Cracovie la première église de Pologne. Quelques années plus tard, en 966, le roi de Pologne, Miecislav, se convertit, à l'instar de ce qu'avait fait quelques 10 ans plus tôt Étienne de Hongrie. C'est un nouveau succès pour le pape. À ce dernier succède un pape français, qui est l'ancien archevêque de Reims, qui se nomme Sigmund II, qui va succéder à son prédécesseur au moment où Othon va mourir en 1002. Et avec l'arrivée au pouvoir de Sigmund II, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans l'histoire de l'Église. Mais les conquêtes du christianisme au Xe siècle ne concernent pas seulement la Pologne et la Hongrie. Maintenant, les missionnaires reprennent le problème de la Scandinavie sur lequel ils se sont cassés les dents déjà depuis plusieurs siècles. La Scandinavie qui était un bastion qui résistait à la conversion, qui résistait à la pénétration du christianisme. Et la Scandinavie résistait à la pénétration du christianisme parce qu'il n'y avait pas eu au préalable de conquête politique. Et là, il y a quand même un élément tout à fait curieux qu'il nous faut prendre en compte, que les missionnaires du Xe siècle avaient fort bien compris, c'est que aussi longtemps qu'on n'a pas assuré une conquête politique, il est vain de vouloir obtenir une conquête spirituelle du peuple que l'on se dispose à évangéliser. Et c'est pourquoi, au Xe siècle, les clercs, donc l'Église catholique, va encourager une conquête politique de la Scandinavie. Cette conquête politique s'impose d'une certaine manière aussi parce que la Scandinavie est une source de difficultés pour l'Europe tout entière, notamment à cause des expéditions des Vikings, des Normands, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Et c'est tout à fait intéressant de constater que lorsque la grande expansion missionnaire du 19e siècle, là on fait un saut dans le temps, la grande expansion du 19e siècle sur le plan de la mission a permis des conquêtes nouvelles, un bond en avant du christianisme à l'échelon du monde entier, l'évangélisation par exemple de l'Afrique, l'évangélisation de l'Inde, l'évangélisation de l'Extrême-Orient, de la Chine, etc., etc. Eh bien, cette évangélisation de ce qu'on appellerait aujourd'hui le tiers-monde coïncide avec les conquêtes militaires du colonialisme. Il est certain que ici, il s'agit d'une évangélisation de masse, c'est-à-dire que, nous l'avons vu tout à l'heure, il s'agissait de toucher le chef, et puis il y avait une christianisation qui se faisait automatiquement. On adoptait la religion du vainqueur, qui paraissait comme supérieure à la vieille religion du vaincu. Mais maintenant, évidemment, on pouvait se demander jusqu'à quel point cette évangélisation était une évangélisation en profondeur, ou bien si ce n'était pas quelque chose de bien superficiel. Et notamment, dans des pays fraîchement convertis comme la Hongrie, comme la Pologne, comme la Scandinavie, et puis comme à la fin du même siècle la Russie, ainsi nous aurons l'occasion de le voir, eh bien, le christianisme est resté très superficiel. Et l'on peut penser par exemple que la dégringolade des mœurs qui marque la Scandinavie, la Scandinavie a été la première dans cette dégringolade, a été celle qui a donné le signal de la dégringolade des mœurs, vient de ce que précisément la Scandinavie était finalement la dernière région d'Europe à avoir été évangélisée, et que par conséquent le christianisme n'était pas véritablement entré en profondeur malgré les siècles qui s'étaient produits et qui s'étaient passés depuis lors. N'est-ce pas? Enfin, c'est une théorie en tout cas qui a été développée. Toujours est-il que Il faut réaliser que lorsque on a affaire à un régime politique qui est hostile à l'Évangile, ou qui appuie, qui s'appuie sur un autre système religieux, eh bien, on constate que l'évangélisation est extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle aujourd'hui de la deuxième évangélisation de l'Europe, eh bien, il faut bien comprendre que les conditions ont changé aussi à ce niveau-là, et que la plupart des États, des systèmes politiques en place ne sont plus favorables au christianisme comme ils l'étaient à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque où a eu lieu la grande évangélisation de l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des conversions importantes, mais ces conversions-là, elles ne peuvent pas, on ne peut pas penser, en tout cas, avoir des conversions de masse au niveau d'un peuple tout entier, comme c'était le cas au Moyen-Âge, parce que ces conversions étaient souvent des conversions qui étaient obtenues à la pointe de l'épée. Il faut dire les choses un peu brutalement. Évidemment, il faudrait nuancer ça un peu plus. Mais en fait, il est certain que la conquête politique était un préalable à la conversion de masse que l'on cherchait. Donc l'évangélisation de la Scandinavie reprend au Xe siècle, notamment la Norvège et le Danemark. Bon, il faut dire que les efforts des générations précédentes dans ce domaine-là, infructueuses qu'elles aient été, n'étaient malgré tout pas restées sans résultat, parce que finalement, comme le dit la parole de Dieu, comme dit la Bible, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Et il y avait eu, ça et là, évidemment, quelques personnes qui s'étaient réellement converties. Il y avait des petits îlots de foi, des petits îlots de gens qui, dans des conditions difficiles, dans un monde hostile et extrêmement brutal, comme l'était le monde viking, avaient néanmoins continué à maintenir la flamme de l'Évangile. Et il est bien évident que ces îlots-là, eh bien, pouvaient servir de base de reconquête au moment où le grand élan missionnaire reprendrait. Seulement, il est évident que la conquête politique de ces pays scandinaves n'était pas une mince affaire. Et à nouveau, le Xe siècle voit un échec des différentes tentatives de mater militairement les peuples du Nord. Il y a tout au plus un arrêt à la fin du siècle de, comment peut-on dire, de la des raids, des expéditions outre-mer des Vikings. Par exemple, l'Angleterre, les côtes de l'Angleterre étaient absolument ravagées par les Vikings, les côtes françaises également. Et à la fin du siècle, donc, il y a des accords qui se produisent avec un certain nombre de chefs vikings. Et les Vikings s'établissent dans un certain nombre de régions, en Angleterre, en France, c'est le fameux Normand qui donneront la naissance à ce qu'on appelle la Normandie. Et donc ils ont l'autorisation de s'installer dans ces régions-là. Ils arrivent des accords, des modus vivendi avec les populations locales, avec les pouvoirs locaux, et en général, au bout de peu de temps, ces gens qui se sont installés donc dans les régions christianisées vont se convertir aussi au christianisme. Donc, si vous voulez, la mission parmi les peuples du Nord va se borner aux immigrés. Les immigrés vont se convertir. Mais, évidemment, ces gens-là, ces immigrés, continuent à avoir des contacts avec la mère patrie et non seulement les marchandises s'échangent entre ces nouveaux venus et puis leur mère patrie, mais également des idées. Et très lentement, mais néanmoins d'une manière nettement plus sensible que dans les siècles précédents, l'Évangile pénètre en Scandinavie. Il y a notamment, c'est aussi l'époque où est entreprise la colonisation par les Vikings de l'Islande, le fameux Éric le Rouge qui s'est rendu coupable d'un meurtre est exilé par le Conseil des chefs de Norvège et il doit donc s'exiler. Éric le Rouge est un homme extrêmement audacieux, courageux. Il a entrepris dans ses navigations lointaines, il a la certitude qu'il existe à l'ouest une terre qui pourrait être colonisée, et avec ses fidèles, avec ses femmes, avec ses enfants, avec tous ses biens, son cheptel, etc., il s'embarque un jour sans espoir de retour en direction de l'Islande. L'Islande sur laquelle il débarque et qu'il va coloniser. Or, il se trouve que déjà en Islande sont venus s'installer un certain nombre de moines qui, évidemment, voyant arriver ces vikings, n'ont rien de plus pressé que de plier bagages, ce qu'ils ont intérêt à faire le plus rapidement possible. Éric le Rouge massacre, saccage, etc., tout ce qui est pu rester là. Mais il se trouve qu'une des femmes, la première femme d'Éric le Rouge, elle se convertit au christianisme. Finalement, Éric le Rouge tolère le christianisme parmi ses guerriers, d'abord avec sa femme, parmi ses guerriers, et il accepte que soient érigées même des églises dans sa nouvelle patrie, mais lui-même, jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle, refusera de se convertir au christianisme. Dans le même temps, la pénétration de l'évangile en Hongrie et en Pologne se poursuit. Et les Tchèques, en particulier, sont ceux qui vont être au contact direct des Hongrois. Et le grand apôtre de la Hongrie à cette période-là se nomme Adalbert de Prague. C'est un Hongrois qui établit donc les premières églises là-bas et qui fait en sorte que la Hongrie devient un État vassal de Rome. Ça veut dire qu'il dépend directement du Saint-Siège. L'emprise romaine se fait également sentir sur la Pologne, où la papauté parvient à éliminer l'influence grecque, l'influence byzantine, car les Byzantins, entendant parler de cette ouverture qu'a le christianisme en Pologne, vont aussi tenter d'y envoyer des missionnaires. Il va y avoir un conflit entre les envoyés, les missionnaires de Rome et les missionnaires de Byzance, conflit qui va tourner à l'avantage des Romains, qui vont éliminer ainsi les Grecs. Dans le domaine de la théologie, la décadence doctrinale s'accentue au Xe siècle. Notamment, on continue à élaborer la doctrine de la transsubstantiation, qui avait déjà été fort controversée à la fin du siècle précédent. La transsubstantiation, rappelons-le, c'est cette idée selon laquelle, après que le prêtre ait prononcé les paroles bibliques, n'est-ce pas, ceci est mon corps, ceci est mon sang, sur le pain et sur le vin de la scène, ces derniers se transforment miraculeusement, j'allais dire magiquement, dans le corps et le sang de Jésus. Et c'est le corps et le sang de Jésus qui sont à nouveau présents. Il n'y a pas de modification de forme extérieure du pain et du vin, mais il y a une transformation de substance, d'où le terme de transsubstantiation, c'est-à-dire c'est une transformation de la substance du pain et du vin. La substance du pain et du vin se transforme en la substance de la chair et du sang de Jésus. Et au moment où le prêtre rompt le pain, alors il renouvelle le sacrifice de Jésus. Et c'est en cela qu'il est prêtre, en ce que précisément il accomplit le sacrifice. Le prêtre, c'est le sacrificateur. Il renouvelle le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus qui a été offert à Golgotha est donc renouvelé chaque fois que la scène est présentée, chaque fois que donc on appellera la messe est dite. Et par conséquent, le système romain trouve ici, au Xe siècle, ce qui sera par la suite sa pierre angulaire. Sa pierre angulaire pour le salut. Les fidèles qui prennent part ensuite au pain et au vin reçoivent directement et matériellement le corps de Jésus. Et par conséquent, cette nourriture-là, qui est une nourriture au sens propre du terme, qui n'est plus seulement une nourriture au sens spirituel, mais au sens physique et matériel du terme, est le moyen, la source essentielle du salut. On est sauvé dans la mesure où l'on participe régulièrement à l'Eucharistie et que par conséquent, on se nourrit de la substance même de Jésus. Alors, évidemment, les conséquences de cette dérive doctrinale sont faciles à imaginer, dans ce sens que la vie morale devient secondaire par rapport à la vie sacramentelle. C'est la vie sacramentelle qui est première, c'est-à-dire la participation au sacrement de l'Eucharistie, notamment qui est l'élément essentiel de la vie spirituelle du fidèle, et la vie morale est court-circuitée. Le Xe siècle, la deuxième moitié du Xe siècle notamment, malgré les conquêtes missionnaires importantes, n'est-ce pas, qui se manifestent à cette époque-là, malgré le fait que Othon Ier essaye de mettre un peu d'ordre dans une église en pleine décadence, n'est pas un siècle très brillant sur le plan spirituel. La situation est particulièrement catastrophique, bien sûr, notamment à l'époque de la fameuse pornocratie. Il est bien évident que l'exemple venant de haut, eh bien, automatiquement, c'est toute l'Église qui est complètement pourrie. Et la moralité est particulièrement catastrophique au niveau des clercs, qui mènent grand train, grande vie, qui ont force concubine et force enfant naturel, qui passent leur temps en beuverie, en festin d'hiver, et qui, évidemment, donnent aussi à leurs fidèles un exemple des plus déplorables dans le domaine de la conduite morale. Il y a aussi le fait que les évêques, étant promus au rang de grands seigneurs féodaux, sont davantage intéressés par l'agrandissement de leurs fiefs, le maintien de leurs possessions, que de leurs devoirs spirituels. Et on ne compte plus les évêques qui, à cette époque-là, chargent à la tête de leurs troupes pour s'opposer à un seigneur voisin. Ils mènent grand train de vie, comme les seigneurs. Ils ont toute une cour autour d'eux, participent à des tournois, à des fêtes et des réjouissances diverses, comme il y en a à cette époque-là, si bien qu'ils délaissent complètement leurs devoirs spirituels. Il n'est pas jusqu'aux moines qui ne soient touchés par cette décadence des mœurs. Les monastères qui avaient été jusqu'alors le bastion de la foi dans un monde qui était quand même christianisé d'une manière très très superficielle, les monastères sont à leur tour atteints par cette décadence spirituelle et morale. Et les moines aussi mènent le même type de vie dépravée que le clergé régulier. Souvent les moines sont des gens d'ailleurs qui entrent dans les ordres souvent issus de familles pauvres de façon à pouvoir jouir d'un niveau de vie nettement plus élevé que celui qu'ils ont jusqu'alors, et on ne compte plus les récits du Moyen-Âge qui mettent en scène ces moines dépravés, les plaisanteries sur les moines dépravés courent les rues à partir de cette époque-là jusqu'à la fin du Moyen-Âge. C'est d'autant plus dramatique que les monastères, disons-nous tout à l'heure, avaient été le refuge des âmes d'élite. Et notamment, l'Église catholique, la papauté notamment, s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas imposer les normes de l'Évangile à des gens qui ne sont pas ce que nous appellerions convertis, des nouveaux, et par conséquent qu'elle devait accommoder l'Évangile au niveau spirituel médiocre qui était celui de la majorité des habitants de l'Empire. L'Église catholique s'était rendue compte aussi qu'il y avait des personnes qui avaient fait de véritables expériences avec Dieu, qui avaient une soif de Dieu, qui avaient une soif d'absolu véritable, et qui, eux, ne se contentaient pas de ce niveau spirituel médiocre dans lequel végétait le plus grand nombre. Et il y avait, nous l'avons vu à toutes les époques, il y a eu des tentatives d'un retour à la pureté de l'Évangile, un retour en quelque sorte, à l'idéal évangélique proprement dit, avec parfois des véritables cassures, des mouvements qui se marginalisaient par rapport à l'Église officielle parce que précisément ils prenaient des positions que l'Église officielle ne pouvait plus accepter, ou bien tout simplement parce qu'eux-mêmes répudiaient cette Église dans laquelle ils voyaient finalement une prostitution de l'Évangile véritable. Et c'était toujours la grande crainte de l'Église officielle que justement une partie importante de la chrétienté suive de tels mouvements. Ces dangers étaient quand même relativement limités, dans la mesure où le plus grand nombre, évidemment, hier comme aujourd'hui, préférait la dolce vita plutôt que les réalités profondes de l'Évangile. Mais le risque n'en existait pas moins. Alors, pour éviter ce genre de choses, lorsque l'Église catholique se rendait compte que il y avait un groupe important de gens qui voulaient vraiment marcher avec Dieu, alors on créait des monastères. Et les monastères, donc, étaient des endroits où l'on pouvait en quelque sorte parquer, si j'ose dire, les hommes et les femmes qui avaient une faim, une soif de Dieu véritable, qui avaient fait des expériences avec Dieu véritable. Là, entre leurs quatre murs, ils pouvaient vivre une vie spirituelle d'un niveau nettement plus élevé que ce qui se vivait ailleurs, et en même temps, ils n'étaient pas un danger pour les entreprises temporelles de l'Église et pour la marche, la bonne marche, entre guillemets, de cette dernière. Au début, les monastères n'étaient pas cela, nous l'avons vu, les Irlandais avaient une autre vision du monachisme, qui était l'évangélisation, mais à l'époque qui nous occupe, les monastères étaient devenus cela dans la stratégie globale de la papauté. N'a pas beaucoup changé, non, c'est un fait. Mais à cette période-là, même les monastères, nous l'avons vu, étaient totalement dépravés. Et c'est alors qu'apparaît un grand mouvement de réforme qui va secouer l'Europe médiévale, qu'on appelle la réforme de Cluny. Le monachisme, avons-nous dit, c'était essentiellement une fuite hors du monde. Les moines fuyaient un monde dépravé pour vivre dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Au Xe siècle, un mouvement de renouveau de l'idéal monachique va surgir. Et un certain nombre de gens qui sont attirés par une vie spirituelle de haut niveau ne trouvent plus aucun endroit pour pouvoir venir vivre cette vie spirituelle-là. Et c'est alors qu'en 910, en pleine pornocratie, est créé à Cluny, en Bourgogne, non loin de Chalon-sur-Saône, un monastère d'un type tout à fait nouveau. C'est un monastère qui a pour règle de base la règle de Saint-Benoît, donc tout à fait aux origines du monachisme, mais qui a été en quelque sorte révisé, adapté à la situation de l'époque, si j'ose dire. Et parmi la règle de Cluny, il y a un certain nombre d'exigences qui s'ajoutent à la règle de Saint-Benoît, notamment parmi le vœu de pauvreté, celui du renoncement à toute propriété privée. Ça, c'est très important, parce que nous l'avons vu, les monastères à cette période-là étaient aussi des grands propriétaires terriens. Ils étaient entrés dans le système féodal, et souvent le prieur d'une abbaye, comme l'évêque, n'est-ce pas, était un seigneur. Il menait grande vie, etc., etc. Or, les moines de Cluny décident qu'eux, ils ne posséderont rien. Renoncement à la propriété privée. Deuxième exigence, celui de la sobreté. Sobriété, pardon. À l'époque où les clercs de tous ordres, qu'ils soient réguliers ou qu'ils soient séculiers, faisaient bombance, eux, ils ont décidé de s'abstenir de toute viande de quadrupède. Et puis, il y avait le principe de l'obéissance absolue à l'abbé, une vie qui était faite de méditation et de silence. Le problème était de savoir comment allait s'articuler ce monastère de Cluny avec les autres monastères. Et les moines de Cluny, évidemment, ne voulaient absolument pas entendre parler d'un quelconque rattachement à un mouvement monachique actuellement existant, parce qu'ils étaient tous dépravés. Eux, leur idéal, c'était une réforme de la vie monastique et puis ensuite de la vie de l'Église tout entière. La visée était universelle. Il s'agissait non seulement de rétablir en quelque sorte la pureté de l'idéal monachique qui avait été dégradé depuis Saint-Benoît, mais il s'agissait également de réformer l'Église en profondeur. Réformer l'Église dans ses mœurs et jusqu'à la papauté. Le but, c'était de créer un grand mouvement spirituel à l'échelon de l'Europe tout entière, qui balayerait les papes pornocrates et dévoyés, et puis qui mettrait sur le trône pontifical des hommes intègres, des hommes qui seraient dans la droite ligne de l'idéal de Cluny. Donc les ambitions étaient importantes. Et après une bataille phénoménale, les responsables de Cluny ont réussi à obtenir que d'être rattachés uniquement et directement au siège de Rome, sans aucun intermédiaire, avec un évêque ou avec un autre supérieur d'une autre abbaye. Ils n'avaient de compte à rendre qu'au pape lui-même, et ceci directement. En dehors de cette vie spirituelle très austère et très stricte que les moines de Cluny s'étaient imposée, ils avaient deux volets de travail. Premièrement, la bienfaisance. Et puis, deuxièmement, un travail d'érudition. Il s'agissait non seulement de réformer l'Église dans ses mœurs, mais également dans sa doctrine. Et pour cela, il fallait recopier les textes sacrés, il fallait entreprendre tout un travail d'étude, de façon à pouvoir réformer l'Église comme ils entendaient le faire. Très vite, les moines de Cluny ont obtenu une très très grande audience, parce que leur vie de piété, de sainteté tranchait étrangement avec la vie dévoyée des autres clercs, et les moines de Cluny ont très très vite été extrêmement populaires parmi les populations. Tant et si bien qu'en l'espace de quelques années, d'autres monastères se réclamant de la règle de Cluny se sont créés. Et le monastère de Cluny a essaimé, d'abord en France, en Bourgogne, en France, et finalement un peu partout dans l'Europe. Et bientôt, il a fallu compter sur l'influence de cet ordre nouveau qui venait de se créer au sein du monachisme. Un des plus grands prieurs de Cluny se nommait Odilon, qui a été prieur de l'abbaye et en même temps grand maître de l'ordre, parce que en l'espace de quelques dizaines d'années, c'est un véritable ordre qui a été créé à l'échelon de l'Europe tout entière. Il y avait la maison mère de Cluny et il y avait des monastères, etc., qui dépendaient du prieur de Cluny, qui lui-même dépendait du pape, comme nous l'avons vu, à l'échelon de l'Europe tout entière. Et les Clunisiens ont commencé à peser sur la société tout entière. Bientôt, il a fallu compter avec eux. Ils sont devenus incontournables. Et les Clunisiens ont imposé une réforme des mœurs dans la société de leur temps. Cette société, qui était la société féodale, dans toute sa splendeur, ainsi que nous l'avons définie, et qui, donc, ont essayé de mettre un petit peu d'ordre dans cela. Ce qui caractérisait la société féodale, au Xe siècle, c'était les bagarres incessantes entre les seigneurs. La guerre était quelque chose qui sévissait à l'état endémique dans toute l'Europe. Pour un oui ou pour un non, les seigneurs se brouillaient, se faisaient la guerre. On faisait la guerre donc non seulement en attaquant le château fort du voisin, mais en même temps en ravageant ses terres, en brûlant les récoltes, en pillant, en massacrant les villageois qui dépendaient du seigneur, si bien que ceux qui finalement faisaient les frais de toute cette situation, c'était les plus démunis, les plus pauvres, les serfs, n'est-ce pas, ceux qui étaient de véritables esclaves. En quelque sorte, la société féodale recréer l'institution de l'esclavage. Et évidemment, les moines de Cluny essayent de soulager cette misère de ces serfs qui sont victimes de cette guerre endémique, etc. Et ils arrivent à imposer, à l'échelon de l'Europe tout entière, une idée qui est reprise par le pape, qui est imposée, savoir ce qu'on appelle la trêve de Dieu. C'est-à-dire que du jeudi soir jusqu'au dimanche soir, on arrête tous les combats, on n'a plus le droit de se battre. Tous les combats s'arrêtent. Évidemment, c'est pas l'idéal. L'idéal absolu serait que bon, ben, toute guerre s'arrête définitivement. Mais enfin, à défaut de mieux, bon. Et puis, les Clunisiens sont ceux qui également essayent de mettre. De donner aux nobles en particulier le sens de la droiture, le sens de l'honneur, du serment, etc. Finalement, l'esprit chevaleresque, qui est l'esprit qui est resté dans le légendaire au Moyen Âge, n'est-ce pas, est aussi cet esprit qui a été encouragé par les moines de Cluny. Donc les moines de Cluny ont eu une très très grande influence dans l'Europe à cette période-là, et à la fin du Xe siècle, il y avait ni plus ni moins que 2000 couvents dépendant de Cluny et de sa règle au travers de l'Europe tout entière. Néanmoins, les Clunisiens feront très vite l'expérience que l'immoralité reste indéracinable. Parce que tout simplement, ces gens que l'on appelle chrétiens sont des chrétiens superficiels, non convertis, donc des païens auxquels on a mis un petit vernis chrétien, et que, aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait une véritable expérience avec Dieu, évidemment, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils vivent en chrétiens selon les règles et selon les normes de l'Évangile. Mais les Clunisiens se rendent compte non seulement que la population reste ainsi immorale en profondeur, mais le clergé aussi, le clergé séculier en particulier. Le clergé séculier qui est composé aussi de gens qui ne sont pas convertis et qui par conséquent n'acceptent pas de se détourner de l'immoralité. Et c'est pourquoi les Clunisiens, ayant fait cette constatation, vont exiger que leur statut, à part en quelque sorte dans la structure de l'Église, soit maintenu. Et ils refusent de passer sous le contrôle séculier. Alors, les Clunisiens vont avoir aussi un certain nombre d'aspects plus négatifs dans leur manière de faire. Et notamment, Odillon est remplacé en 1048, là on anticipe un petit peu, sur le XIe siècle, par un certain Hugues le Grand, et qui va lancer l'essor des pèlerinages à Compostelle. Le culte des reliques, qui était déjà vieux de plusieurs siècles, ainsi que nous l'avons vu, va connaître au Xe siècle alors une apogée extraordinaire. Les reliques, les ossements des saints, sont de véritables talismans magiques que l'on porte sur soi pour se protéger du mauvais sort, etc., pour obtenir des miracles, des guérisons, tout ce qu'on voudra. Et parmi les nombreuses causes de querelles et de guerres qui déchirent le Xe siècle, il y a aussi les guerres qui ont pour raison le pillage des reliques. Tel seigneur est allé piller les reliques de son voisin, qui vient les lui reprendre manu militari, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que pour essayer de provoquer ce grand réveil au sein de la chrétienté médiévale qu'ils espèrent, les Clunisiens vont promouvoir le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, où, d'après la légende, le corps de Saint-Jacques, le frère de Zébédée, aurait abordé après son martyre. Le fils de Zébédée, plutôt, le frère de Jean, aurait abordé après son martyre. Et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle va être le grand pèlerinage de la chrétienté occidentale pendant le Moyen-Âge. Des foules entières, n'est-ce pas, de toute l'Europe vont se diriger vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour y vénérer, entre guillemets, c'est-à-dire y adorer, dans la plus pure tradition de l'idolâtrie telle que la Bible la condamne, les reliques réelles ou supposées, supposées plutôt que réelles d'ailleurs, de l'apôtre Saint-Jacques. Et des véritables routes de pèlerinage vont être organisées de tous les pays d'Europe, avec des relais, des auberges, des ventes d'objets de piété divers pour permettre aux pèlerins de poursuivre leur marche, etc., etc. Des voleurs de grand chemin qui détroussent les pèlerins, enfin tout, quoi. Le trafic des reliques, etc., etc. Et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, n'est-ce pas, sont encore, enfin, les routes, un certain nombre de routes modernes suivent le tracé des routes traditionnelles de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc., à travers de toute l'Europe. Et ça, c'est le résultat de la réforme clunisienne. La réforme clunisienne provoque une autre transformation aussi au niveau de l'architecture religieuse. Les Clunisiens vont promouvoir un nouveau style d'église, l'église dite romane, c'est-à-dire qui a la forme d'une croix latine, avec des murs massifs qu'on appelle murs en plein cintre. Bon, plutôt arc en plein cintre, c'est-à-dire l'arc en demi-cercle. Bon, le but de ces églises forteresses, parce que c'est de cela qu'il s'agit, avec des toutes petites ouvertures, toutes petites fenêtres, etc., qui sont très très sombres, et qui ont des murs énormes, avec des soubassements extrêmement solides, donc ce sont des véritables forteresses, avaient un but spirituel, mais aussi un but autre, n'est-ce pas? C'est que dans ces moments de guerre, n'est-ce pas, où les pauvres étaient victimes de toutes ces razzias, des grands, des seigneurs, etc., les églises servaient de refuge. Et des aspects positifs de la réforme de Cluny, ça va être justement aussi de créer des sanctuaires où ceux qui se réfugient sont inviolables. Par exemple, même un meurtrier ou un homme qui est poursuivi pour un crime, etc., s'il parvient à se réfugier dans l'église, logiquement, il est inviolable. Et les pauvres, en cas de guerre, peuvent se réfugier dans l'église, ils sont protégés. Bon, pour ce qui est des églises qui sont placées sur les côtes, aussi en cas d'invasion des Vikings, des Normands, etc., on peut se réfugier à l'intérieur de l'église, qui est capable, comme une forteresse, un château fort, de soutenir un siège. Le but est aussi celui-là. Et c'est pourquoi les constructions romanes, les églises romanes, ont cette architecture massive, finalement assez peu élégante. Il faut attendre l'époque suivante, quand justement les dangers des désordres dus aux guerres seront éloignés, pour qu'on crée une architecture plus élégante qui sera l'architecture gothique. Dans le même ordre d'idées, les Clunisiens essayent d'étendre le statut qui est le leur à un certain nombre de communautés paroissiales qui sont dans leur orbite, c'est-à-dire qu'elles échappent à l'emprise des évêques pour passer sous le contrôle des monastères. Et donc, ne plus être rançonnés et puis taxés par l'évêque qui cherche à se remplir les poches, etc., etc. En même temps, les Clunisiens obtiennent l'abolition du mariage clérical, entre guillemets, c'est-à-dire du concubinage officiel des prêtres, qui en principe étaient célibataires, mais qui en fin de compte, avaient femme et enfants en grande, ostensiblement, sans se cacher, ce qui était d'ailleurs, à mon point de vue, au point de vue biblique, ça pouvait être, c'était normal, mais dans la perspective catholique, ça n'était pas, n'est-ce pas? C'était pas officiellement un mariage, bien sûr, mais vous en aviez un certain nombre, ça équivalait à un mariage, en quelque sorte. Les Clunisiens obtiennent l'abolition de ce statut quasi-officiel qu'avait ce qu'on appelait à cette époque-là le mariage clérical, dans la mesure où il a été reconnu officiellement, il n'y avait pas de raison que les prêtres ne se marient pas au point de vue public, n'est-ce pas? Et alors ils obtiennent l'abolition par le pape de cette institution qui était quasiment officialisée, et puis un retour à l'exigence du célibat des prêtres. Le but, c'est de réformer l'Église tout entière. Et pour ce faire, les Clunisiens jouent sur la papauté. Leur but, c'est de s'emparer du trône épiscopal, c'est-à-dire de mettre un des leurs sur le trône pontifical, pardon. Et à partir de ce moment-là, ils pensent que s'ils gagnent la tête, ils parviendront à réformer l'Église tout entière. Dans le fond, c'est la même politique que celle des missionnaires dont nous parlions tout à l'heure. Si on convertit la tête, si on convertit le roi, on convertit le peuple tout entier. Et les Clunisiens ont fait le même calcul. Si on parvient à conquérir la tête de l'Église, on réformera l'Église tout entière. Et alors, pour préparer cette conquête qui ne pourra pas se faire, ils en sont bien conscients, avant 2 ou 3 générations, eh bien, il faut en tout cas jouer la papauté à fond contre l'épiscopat. L'épiscopat qui est totalement fourvoyé et dévoyé, et par conséquent, il faut affaiblir les pouvoirs de l'épiscopat et renforcer ceux de la papauté. Et les Clunisiens vont être un des piliers essentiels du renforcement du pouvoir pontifical pendant le Xe siècle. Et pour ce faire, ils vont ressortir les fameuses fausses décrétales dont nous avons parlé, c'est-à-dire ces soi-disant documents de Constantin qui auraient reconnu à l'évêque de Rome non seulement le pouvoir temporel sur la ville de Rome, mais le pouvoir absolu sur tous les évêques, etc. etc. On sait pertinemment que c'était des faux. Les Clunisiens le savent aussi, mais comme ça sert leur politique, ils ressortent ces fausses décrétales et ils s'en font de la propagande. Bon, le succès des Clunisiens est énorme, nous l'avons vu, auprès du petit peuple, qui voit en eux leurs défenseurs dans les malheurs nombreux qui sont les leurs à cette époque-là. Et puis aussi, l'empereur Henri III va considérer avec sympathie le mouvement clunisien. Et effectivement, selon le calcul des Clunisiens, 2 ou 3 générations après, ils arriveront à mettre un des leurs sur le trône pontifical. Le premier sera Hildebrand, qui sera un des plus grands papes de toute l'histoire de l'Église. Et puis aussi, celui qui pratiquement a la même envergure et la même stature qu'Hildebrand, Innocent III. Et là, nous arrivons à l'apogée de la papauté médiévale, l'apogée du pouvoir pontifical et en même temps le conflit entre les papes et les empereurs qui va trouver aussi son paroxysme à cette période-là. Alors, la réforme de Cluny, on peut la juger de 2 manières différentes. Enfin, disons, il y a 2 points de vue par lesquels on peut la considérer. Il y a manifestement un aspect positif dans la réforme de Cluny, et d'une certaine manière, on peut dire que la réforme de Cluny est une sorte de réveil. Une réforme, au sens où il faudra entendre la réformation au XVIe siècle, du moins une tentative de réforme. Seulement, c'est une réforme qui s'inscrit dans le système catholique et qui s'enferme dans le système catholique à fond, qui ne remet pas en question la théologie du catholicisme. C'est une réforme essentiellement morale, spirituelle aussi, il y a un aspect spirituel, il y a des hommes manifestement qui ont fait des expériences avec Dieu, des expériences de conversion, des expériences éventuellement même charismatiques, mais qui ne va pas aussi loin que ira la réforme du XVIe siècle, et qui, en particulier, ne remettra pas en cause la doctrine, au contraire, qui s'enfoncera encore davantage dans l'hérésie romaine, en particulier l'hérésie de la primauté papale, et puis l'hérésie des pèlerinages, etc., nous avons parlé, et puis donc qui ne remettra pas en cause le système romain. En fait, c'est une tentative de réformer l'Église de l'intérieur. Finalement, ce qui était au départ aussi le but des réformateurs tels Luther au XVIe siècle, Et on peut dire que à ce niveau-là, c'est une tentative qui, à l'inverse de ce qui s'est passé pour Luther, va réussir. Parce qu'elle est planifiée dans le temps, elle est planifiée avec des gens qui ont placé leurs hommes avec beaucoup de sagesse, des gens qui ont une piété certaine et manifeste, et qui va réussir donc le but qu'elle se proposait, savoir réformer le clergé, du moins dans ses mœurs. Le peuple, c'est autre chose. Enfin, et bah, avec Hildebrand, nous aurons l'occasion de le voir au siècle suivant, il y aura tout de même un redressement du niveau moral du clergé en général, bien sûr, en général. Mais à partir du moment où les papes vont entrer dans les papes clunisiens, donc Hildebrand et Innocent III vont entrer dans le système papal en lui-même, s'y installer, le pouvoir corrompt et ils vont devenir des politiques. Ils vont devenir des politiques et la réforme va dévier à cause justement de cette dimension politique qui sera la sienne. Donc, un aspect positif sans aucun conteste, et la réforme de Cluny va donner l'occasion au Moyen Âge à des hommes de se tourner, des hommes et des femmes de se tourner véritablement vers Dieu, d'entendre l'Évangile et de dire un certain nombre de se convertir. Mais évidemment, ce ne sera pas la majorité. Et l'évangile de Cluny est malgré tout un évangile extrêmement teinté d'hérésie, toutes les hérésies romaines qui se sont instaurées depuis Constantin et puis jusqu'à ce moment-là. Par conséquent, le jugement qu'on peut porter sur cette réforme de Cluny est un jugement mitigé. Un aspect positif indéniable, et puis des aspects négatifs qui finalement vont réduire à néant toute la tentative qui a été faite d'une réforme en profondeur de l'Église. Ce sera une réforme qui restera malgré tout une réforme superficielle, une réforme qui touchera un certain nombre de gens, leur permettant véritablement pendant plusieurs générations de se tourner vers le Seigneur. Et puis ensuite qui amènera l'Église catholique à retomber finalement à un niveau de médiocrité. Et nous verrons justement que dans les siècles suivants, il y aura d'autres tentatives de réforme, parce qu'on se rendra compte que la réforme de Cluny a échoué. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'à partir du Xe siècle, on se rend compte que l'Église a besoin d'une réforme en profondeur. Et la réforme de Cluny est la première tentative de ce type-là. Bon, elle échoue. Il y aura jusqu'au XVIe siècle, dans la même optique finalement, c'est-à-dire une réforme par l'intérieur et à partir du monachisme, c'est toujours à partir du monachisme que partira la tentative de réforme. Ces réformes-là échoueront. Et au XVIe siècle, avec Luther, la réforme partira aussi du monachisme, puisque Luther aussi était un moine. Mais fort en quelque sorte des expériences des réformes avortées, parce que finalement, le système romain va finir par étouffer la réforme, et c'est ce qui se passe avec Cluny, pas? Et Luther a compris cela. Luther a compris qu'on est en train de le mettre sur une voie de garage, comme on a essayé de faire pour les réformes de Cluny, de Cîteaux, de celles qui suivront. Et c'est alors qu'il comprend qu'il faut prendre des mesures beaucoup plus radicales, si on veut véritablement aboutir à la réforme que l'on attend et que les impieuses espèrent depuis le Xe siècle. Et alors, il se dresse contre l'Église catholique et c'est la rupture. Enfin, c'est la rupture, c'est la réforme. En fait, on peut dire que les prodromes de la réforme commencent au Xe siècle avec la réforme de Cluny et que la réforme de Luther et de Calvin, ensuite les réformes qui suivront, eh bien, sont rendues inévitables à partir du moment où éclate la réforme de Cluny. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?